au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis, bonjour. Au fil des pages, j'ai été récemment très intéressé par une publication récente, « Qui est riche ?» de Philippe Villemus, paru chez Erol, 261 pages, 16 euros. S'agit-il de la version actuelle de la fable de La Fontaine, selon que vous serez puissant, comprenez riche ou misérable ? Plus exactement, avec cette parution, Philippe Villemus rentre de plein pied dans l'actualité. À l'heure où le Crédoc indique que 60% des classes moyennes pensent se rapprocher de la pauvreté et que le pouvoir d'achat focalise le débat politique et économique, l'auteur apporte un éclairage sans tabou sur ce sujet majeur de la richesse et de la pauvreté en France. Une analyse rigoureuse, scientifique et particulièrement claire qui s'appuie sur un vécu très complémentaire d'universitaires et de patrons d'entreprises. En effet, Philippe Villemus est docteur de l'université. Il a été président d'Elena Rubinstein et directeur marketing de la Coupe du Monde de football 1998. Il est aujourd'hui professeur au groupe SUP de Montpellier, chroniqueur économique à Midi Libre, conférencier et auteur de nombreux ouvrages, dont « Deux cracks en crise et délocalisation, aurons-nous encore des emplois demain ?» Dans la culture française, rappelle-t-il, être qualifié de riche reste passablement péjoratif, sans doute par l'héritage de son acception d'origine de puissant et de grande proximité avec ce qui était hier encore la noblesse. L'auteur montre que ses repères originaux sont totalement dépassés, aussi propose-t-il une approche méthodologique révisée qui permet de distinguer les plus riches, c'est-à-dire environ 20% de la population, des richissimes, c'est-à-dire entre 1 et 2% de la population, et en contrepartie, d'identifier les pauvres, 20%, pense-t-on, et tous les autres, c'est-à-dire les classes moyennes, dont on comprend les états d'âme. Ainsi posé, l'analyse montre que la richesse résulte de deux forces, qu'on peut qualifier peut-être de contradictoires, la création et la répartition. Être riche, c'est posséder à la fois des revenus et un patrimoine, c'est-à-dire des flux et des stocks, lesquels, bien entendu, ont une valeur temporelle et opérationnelle variable. La création de richesse a pour corollaire sa destruction, par exemple l'énergie fossile. Et l'économie est une affaire de maximisation, car les biens économiques sont rares. S'ils étaient illimités, il n'y aurait pas de pauvreté et la richesse serait infinie, on peut toujours rêver. En France, on commence, selon cette étude, à être riche avec 4000 euros par mois pour un couple et pauvre avec moins de 800 euros. Le seuil de la richesse en patrimoine, où bien entendu l'immobilier a une part considérable, commence à partir de 400 000 euros et l'ultra-richesse au-delà de 1 400 000 euros. Le profil type du riche, c'est un homme entre 40 et 60 ans. Il est francilien, il est diplômé, indépendant ou cadre. Son conjoint est actif, il dispose à la fois de revenus et de patrimoine. En fait, on s'aperçoit qu'il faut peu de choses pour être riche. Mais de quelle richesse parle-t-on ? C'est-à-dire, quel est le sens de l'enrichissement ? Je cite ce qu'écrit l'auteur sur le sujet. Le but de l'activité économique est-il d'accroître la richesse ou d'accroître le bien-être collectif? À partir d'un certain niveau de richesse, l'augmentation du revenu national est un assez mauvais indicateur de l'accroissement du bien-être. À partir d'un certain niveau de richesse, la croissance de l'économie et du revenu national pourrait diminuer et non pas augmenter le bonheur de la communauté. Pour cette raison, l'indicateur de développement humain de l'ONU, qui permet de classer les pays d'après leur niveau d'épanouissement, accorde un poids limité aux revenus par tête. Autrement dit, à partir d'un certain seuil, l'argent ne fait plus le bonheur. Mais en deçà de notre seuil, il fait aussi le malheur. La richesse, ce n'est pas seulement de l'argent, mais aussi de la culture, des réseaux, de l'élitisme. La richesse est multidimensionnelle, elle dépend du capital social et culturel, car les inégalités se cumulent entre elles. D'un côté, on empile des privilèges, de l'autre, des handicaps. La richesse économique, avec une distribution beaucoup plus inégalitaire du patrimoine que des revenus, entretient la richesse sociale, faite d'un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées. Ce réseau, chez les riches, permet d'amplifier les pouvoirs de chacun, ce que d'aucuns nomment les cercles. La richesse matérielle favorise aussi la réussite scolaire dans un système éducatif où la compétition est âpre. Cette réussite scolaire nourrit à son tour la réussite culturelle et matérielle. En fait, on le voit, il en faut peu pour être riche. Mais de quelle richesse parle-t-on ? C'est ce qu'on vient de voir, ceci est l'avis de l'auteur. S'il s'agit de la richesse immatérielle, collective ou absolue ? Ceux qui n'entrent pas dans le profil type se consoleront en lisant cet ouvrage, certainement, mais aussi par la conviction que la seule vraie richesse est celle du cœur. Comme le nous le rappelle l'auteur, l'homme du XXIe siècle sera-t-il cet homo economicus seulement motivé par la richesse ? L'argent, les biens matériels et la propriété doivent-ils être les seuls moteurs de notre société ? Pendant des décennies, posséder plus de choses et de biens de plus en plus chers a été le moteur de la croissance économique. Peut-on imaginer un monde où, une fois les besoins fondamentaux satisfaits, pour tous, le désir de possession, l'accumulation de richesses superflues et la course effrénée à la consommation céderaient la place au besoin de maîtriser sa propre existence et son environnement ? Posséder plus de choses que nous n'en avons déjà nous rendra-t-il plus heureux ? Les sociétés, au XXIe siècle, doivent apprendre à avancer dans le respect des individus, de la collectivité et de l'environnement naturel. La seule richesse matérielle ne peut être la finalité unique d'une société qui recherche l'équilibre. Ou bien encore, rappelons-nous avec Woody Allen, qui prétendait que la richesse vaut mieux que la pauvreté, ne serait-ce que pour des raisons financières. Une vérité qui dérange. Merci à vous.